Et je vous invite sans plus tarder à prendre l'épître aux Éphésiens. Et nous allons donc continuer notre exposé systématique des Écritures par l'épître aux Éphésiens. Et nous en sommes toujours au chapitre 4 et au verset 1, où il est écrit : Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et nous avons déjà donné. Donner une explication sur ce qu'est la marche digne. Ensuite, on a regardé ce que c'est que la marche en toute humilité, verset 2, la marche en toute douceur, avec patience, c'était encore notre message, vous supportant les uns les autres avec amour, c'était encore notre message, et ce matin, nous allons regarder simplement le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Prions, s'il vous plaît. Père, nous nous humilions devant toi, parce que nous reconnaissons que dans nos cœurs charnels, il serait rapidement possible de ne pas garder la paix, de ne pas conserver l'unité, et d'être une occasion de chute, d'une manière ou d'une autre. Aussi, nous te prions, Père, que tu nous gardes en toi, tout d'abord, pour que cet esprit qui nous a unis puisse nous remplir et nous garder humbles, unis, avec patience, avec douceur, avec humilité, les uns les autres. Afin, Seigneur, que nous puissions refléter l'unité que tu as, toi, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, et que nous puissions témoigner de la puissance de Dieu, de son amour, de ce lien de la perfection qui est l'amour, de ce lien profond qui nous unit à Dieu le Père et à Jésus-Christ, qui nous unit au ciel, même si nous sommes sur la terre et nous marchons parfois quinquant, mais Seigneur, tu es là. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es avec nous. Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, tu es avec nous. Tu t'es révélé à nous et nous t'adorons. Tu nous as sortis de là où nous étions pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu, nous asseoir dans les lieux célestes en Christ, nous révéler ta personne. Aussi, nous te comblons, Seigneur, de nos louanges, parce que nous voulons être remplis de reconnaissance pour tous tes bienfaits. Amen. Ici, dans le texte que nous avons sous les yeux, si nous continuons au verset 4, il est question d'un seul corps, un seul esprit, il est question d'une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. En fait, ici, il y a sept fois le mot « seul » qui est dans le texte. Je pense que la question ici ce matin que nous pourrions voir ensemble est celle-ci. Est-ce que l'unité est possible? Est-ce qu'il est possible de marcher dans l'unité? De conserver l'unité, nous dit le texte de l'Esprit, par le lien de la paix. Est-ce qu'il est possible d'être ensemble? En fait, l'unité fait partie de la marche, c'est ce que Paul veut nous dire ici ce matin. Si vous marchez avec le Seigneur, quelque part, vous allez avoir de l'humilité, vous allez avoir de la douceur, vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir de la patience, vous allez avoir de la paix et vous allez être unis avec les frères et sœurs. C'est difficile d'être uni avec Dieu le Père et ne pas être uni avec ses enfants. Êtes-vous un enfant de Dieu? Avez-vous accepté Jésus-Christ dans votre cœur? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Et avez-vous la paix de Dieu dans votre cœur afin d'être uni avec son corps, qui sont ses membres, qui sont ses enfants? En fait, l'unité, j'ai marqué ici dans mes notes extérieures, des individus d'une église locale passe par une unité spirituelle. L'unité passe par quelque chose d'intérieur. Et le témoignage d'une église qui marche unie avec son Seigneur est le témoignage où l'unité du Saint-Esprit, on va dire, règne parmi ses membres. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a fait tous pareils, qu'on doit tous penser la même chose, qu'on doit tous être identiques et qu'on doit être tous moulés d'une certaine façon. Dieu nous a, loin de là, créés comme ça. Chacun, nous avons des personnalités différentes. Mais le miracle de Dieu, c'est de placer des gens différents, et même, je dirais, différentes éducations, différents pays, ensemble, dans les liens de l'amour qui se trouve en Christ. Ça, c'est tout un témoignage. Et ce n'est pas étonnant qu'une église qui soit remplie ainsi de l'unité, même si elle est persécutée, elle devient puissante, elle devient forte, elle est humble, elle est efficace, portant le flambeau de l'évangile même jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'au départ, il y a des gens qui prient unis pour le salut des âmes et qui sont capables même d'envoyer des missionnaires au loin, parce qu'unis dans la prière, unis dans la prière, unis dans l'amour, unis dans le combat, unis dans la bienveillance les uns envers les autres, etc. Dans l'hospitalité, enfin dans toute espèce d'activité et ministère chrétien. Ce n'est pas étonnant que le diable a essayé, essaye et va encore essayer de diviser l'Église. Ce n'est pas étonnant que face à ce témoignage puissant, qui a pour but notamment l'amour, le reflet de l'amour de Christ et le fardeau du salut des âmes, Satan a essayé de briser cela, parce que Satan a pour rôle de briser ce que l'œuvre de Dieu. Et cette unité, c'est une œuvre qui vient de Dieu. Ce n'est pas un effort humain, ce n'est pas des gens tout d'un coup qui décident de faire un club ou un groupe particulier, c'est Jésus-Christ qui unit dans sa grâce des hommes et des femmes différents, mais attachés à un même sauveur. Quand on fait les préparations au mariage, tout le monde qui passe par ces cours savent que j'ai un petit dada, c'est de faire un triangle. Un triangle représentant Dieu à la pointe, avec l'homme et la femme ici. Et plus l'homme et la femme se rapprochent de Dieu, plus ils sont proches l'un de l'autre. Vous saisissez ? Je n'ai pas un schéma à vous montrer, mais c'est relativement simple. Plus l'homme et la femme se rapprochent de Dieu, voyez-vous, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Plus les membres de l'Église se rapprochent de Dieu, plus ils sont unis les uns aux autres. Ça, c'est la condition de l'unité. En fait, les croyants ici sont appelés, dans ce texte ici, à conserver l'unité, pas à rechercher l'unité. Nous y viendrons tout à l'heure dans un instant. Cette unité intérieure, et en fait, cette unité est mission impossible sans avoir les vertus qui sont mentionnées dans la marche digne, qui sont l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, et au verset 3, la paix. Alors, est-ce que nous sommes remplis d'humilité ? Est-ce que nous sommes remplis de douceur, de patience, d'amour et de paix ? Si oui, nous avons les ingrédients, les vertus nécessaires à vivre l'unité du Christ. Alors l'unité est un joyau précieux. C'est pour ça que ça prend du temps à la bâtir, l'unité. On voit ça quand on implante une église notamment. Avant qu'il y ait une unité, un corps qui s'aime, un noyau vraiment qui combat ensemble, etc., ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Et Dieu met des gens ensemble qui parfois se frottent, s'édifient aussi, s'aiment dans les bons jours comme dans les mauvais jours pour atteindre le plan de Dieu. Alors on est d'accord de dire que l'unité est importante. La Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Il faut savoir dans l'Église ce qui nous unit pour être unis. Il y a une unité de croyance qui est nécessaire, il y a une unité de vision qui est nécessaire et une unité d'action. Vous savez, j'ai fait mon service militaire, mais quand vous entrez dans l'armée, de gré ou de force, eh bien on vous dit quoi faire. Mais vous n'avez pas l'idée, quand vous êtes un soldat, de dire « Ah non, moi attendez, je pars par là. » Parce que le capitaine a dit par là, ou le lieutenant a dit par là. Chacun ne fait pas ce qui lui semble bon. Il y a des règles dans l'armée. Maintenant, vous n'avez pas envie de vivre, je suppose, dans l'Église, n'est-ce pas, des règles militaires. Mais il n'empêche pas moins ce que nous avons besoin de savoir, ce que nous croyons, là où nous voulons aller et comment le faire. Alors, l'Église doit savoir ce qu'elle croit, ce qui est essentiel au niveau de la doctrine. Quelqu'un a dit « il ne faut pas sacrifier la vérité sur l'autel de l'amour ». Et on peut dire de suite que l'unité n'est pas ce que certaines dénominations veulent accomplir. Ou certains mouvements, comme l'œcuménisme, veulent accomplir. Voilà, il faut absolument être unis. Peu importe ce qui nous unit, on va être unis parce qu'on décide d'être unis. Le compromis va être fait. Ce qui est le plus important, c'est l'unité. Nous ne croyons pas cela. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de créer l'unité. Nous avons besoin de la conserver parce qu'elle est déjà acquise et elle ne vient pas de nous. Quand les hommes essayent de faire l'unité par eux-mêmes, ils ne font pas ce que Dieu veut que l'on fasse, c'est-à-dire d'abord de la rechercher par la paix intérieure. On ne peut pas s'unir si d'abord on n'est pas en paix avec Dieu. On ne peut pas être uni avec les frères et sœurs si on n'est pas en paix avec Dieu. Et les enfants de Dieu sont unis ensemble parce qu'ils connaissent le même Sauveur. C'est lui qui est le centre de l'unité. Et lorsque les gens essayent de créer une unité sans le Seigneur, ou des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est une fausse unité. Ce n'est pas l'unité que Dieu nous a laissée. L'Église doit avoir aussi une seule et même vision. On doit croire ce que dit la Bible et avoir une solide doctrine, n'est-ce pas? Mais aussi, on doit avoir la vision. La vision de quoi, au fait? Mais la vision de ce que dit la Bible. Par exemple, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une des missions que nous a laissé Jésus-Christ dans ses dernières paroles, c'est d'aller de faire toutes les nations des disciples. Une église doit faire des disciples, de gagner des âmes et ensuite les entourer avec amour, comme un bébé qui naît dans un foyer, on l'entoure avec amour, on en prend soin, on le nourrit, on le chérit, etc. Eh bien, l'église de Christ doit avoir ses douleurs d'enfantement pour amener des gens au Seigneur et puis les faire grandir jusqu'à maturité, en fait, entrer dans le plan de Dieu que nous allons voir plus tard en Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 16, qui est le plan de Dieu pour son Église, où il y a une croissance commune dans l'unité, ayant pour centre la tête qui est Christ, la tête du corps de Christ. Non seulement nous sommes placés dans une vision d'évangélisation, une vision d'édification, et nous devons comprendre que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. On a déjà regardé dimanche dernier ensemble tous les mots qui se rattachent et les verbes qui se rattachent aux uns aux autres. Certainement, Dieu veut qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on se porte les uns les autres, qu'on se soutienne les uns les autres. Nous avons besoin d'exercer notre amour les uns vers les autres. Et puis, pour arriver aux fins de Dieu, nous avons besoin d'être unis dans l'action. Vous ne pensez pas, excusez, je reprends encore l'anecdote de l'armée, mais vous ne pensez pas qu'un général, lors d'un combat, dit voilà, on va faire ci, l'autre dit non, on va faire ça, l'autre dit on va faire ça. Sur le terrain, chacun décide ce qu'il doit faire. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de paix et Dieu est un Dieu d'ordre qui communique à son Église son plan, sa vision et sa mission. Et nous devons apprendre à nous unir, à rechercher Dieu. Allons à la maison de l'Éternel, il y a d'abondantes joies devant ta face, pour être devant le trône de la grâce et demander à Dieu de nous unir dans une même action. Et lorsque l'Église, ensemble, nous décidons d'avoir des activités pour la gloire de Dieu, on devrait être tous ensemble unis. Parce que c'est Dieu qui dirige son Église, c'est pas nous. Les plans de Dieu nous étonnent, Dieu a des plans qui nous étonnent. Les Coréens du Sud sont des milliers, ou à une certaine période, peut-être même encore, ont prié tous les matins de bonne heure afin que les Coréens du Nord ne les envahissent pas. Parce qu'ils savaient que si le Nord envahissait le Sud, ils seraient sous la persécution du communisme et ils perdraient leur liberté. Et ils se sont mis à genoux pendant des heures, pendant des années, pour prier pour un réveil, pour prier que Dieu protège la Corée du Sud. Et ce pays a connu une explosion économique et surtout un réveil spirituel. Mais les chrétiens unis étaient unis, notamment unis dans la prière. Donc l'unité de croyance, de vision, d'action, j'ai marqué, amène l'Église à un travail d'équipe où tout le monde fait corps avec le Seigneur dans une même direction, un même sentiment très fort d'appartenance envers le Seigneur, ses frères et ses sœurs. Vous savez, ce matin à la radio, bon, j'écoute un petit peu la radio le matin, en me rasant. Et j'écoutais une émission ce matin d'un certain Cordier, qui était un résistant, et qui racontait certaines anecdotes terribles, n'est-ce pas, de l'invasion allemande et puis de la résistance. Et quand il a vu son pays envahi, et l'annonce que voilà, on baissait les bras, on n'allait plus combattre, il allait avoir un pacte avec les Allemands, il est entré dans sa chambre, tout jeune homme, 19 ans, et il a pleuré pour son pays. Il a pleuré pour son pays. Et puis il est devenu un résistant que Dieu a vraiment utilisé en équipe avec les autres résistants, Jean Moulin, etc. Et ils ont résisté. Ils ont résisté. Et je pense que dans l'Église, nous devons aussi pleurer pour la condition du monde. Nous devons être mus de compassion pour les gens qui se perdent. Prier les uns pour les autres. L'un est faible, l'autre passe par des moments difficiles, dans un combat spirituel, peut-être dans une impasse matérielle. Nous devons apprendre à nous unir les uns les autres, à être d'un même cœur, à pleurer, parce que nous avons une cause suprême. C'est là ce que je veux dire. Parce que la cause nous dépasse. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour la cause de Christ. Et nous voulons, ensemble, que Dieu soit efficace au travers de nous. Parce que c'est sa gloire qui est en jeu, c'est sa cause. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos ambitions personnelles. Hein. Je pense qu'on peut les laisser au porte-manteau en entrant dans l'église, parce que ça ne sert à rien. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est la gloire de Christ. Mon église, c'est Christ. Mon église, elle appartient à Christ. Mon église, c'est Christ qui en est la tête. Je veux l'adorer. Je veux voir que mon église porte du fruit qui ne meurt et glorifie Dieu. Vous savez pourquoi on a besoin d'unité? Parce que autant dans le ciel que sur la terre, il y a un manque d'unité. Alors j'avais marqué quelques versets ici que j'ai trouvés, mais j'aimerais vous dire que, simplement, alors, pour aller un peu plus en résumé, Satan, un jour, est tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et on pourrait lire en Ézéchiel, un autre passage, qui montre la chute de Satan. Dans le ciel, un jour, il y a eu déchirement, il y a eu division entre Dieu, Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui a même créé Satan, et Satan, ce chérubin, favori pourtant de Dieu, qui a voulu se faire égal à Dieu et qui a déchiré le ciel en emportant une partie des anges pour sa propre gloire, ses propres desseins, dans ses propres buts, en insoumission avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. La division a commencé dans le ciel et Dieu l'a permis. Et la Bible nous dit ceci à propos des chrétiens, à propos de ce que nous étions, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je peux vous dire une chose, c'est que si vous n'êtes pas convaincu que le diable essaie de diviser, vous êtes aveuglé. Il essaie de diviser les couples, il essaie de diviser les familles, il essaie de diviser les églises, il essaie de diviser, de tromper et d'attirer à lui, dans la perdition, le plus grand nombre. Et nous, en tant que croyants, on doit veiller à ne pas faire l'œuvre du diable. Et la Bible dit en Éphésiens 4, 27, de donner pas accès au diable. Et en Éphésiens 6, 12, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le diable essaie toujours de trouver des brèches par lesquels passer pour diviser, tromper, aveugler, ou par toute espèce de choses, le mensonge, les ruses du diable, nous dit Éphésiens chapitre 6. On y viendra un jour de parler du combat spirituel. Ainsi, l'ennemi essaie de prendre toute petite brèche. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui se réveillent parce qu'ils regardent à leur... comment on appelle ça? J'oublie. Ceux qui arrêtent l'eau. Les barrages. Et tout d'un coup, ils voient une brèche, une petite fissure. Oh, une petite fissure sur des masses et des mètres de largeur de béton armé, ça n'a pas grande importance. Oui, ça a importance. Parce qu'une petite brèche peut amener une plus grande fissure et peut amener la fraction, n'est-ce pas, du barrage et peut amener un déferlement de catastrophe. Si nous ne veillons pas aux brèches, à la moindre chose qui enlève l'unité, nous allons nous retrouver dans une catastrophe qui n'est pas naturelle, mais qui sera peut-être voulue par le diable. Ainsi, nous devons veiller. Nous devons veiller dans le couple. Nous devons veiller en tant que parents vis-à-vis des enfants, les enfants envers les parents, et bien sûr, les familles en général, et même dans le travail, et partout, et surtout dans l'Église, à veiller à être unis ensemble. C'est beau d'être unis. Je ne sais pas vous, mais je crois que j'ai déjà dit ça dimanche dernier. Non, une des plus belles choses que moi je trouve, c'est d'être unis en famille. Je ne sais pas, je suis bien en famille. J'aime ça, avoir les enfants, peut-être un jour alors petit-enfant maintenant, etc. Gloire à Dieu, c'est merveilleux d'être en famille. C'est de toute beauté d'être unis en famille. Parce qu'il y a l'amour, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la joie d'être ensemble. Et même ne serait-ce que d'être ensemble. Pas besoin de faire mille et une activités, juste d'être ensemble. Quelle grâce. Dans la paix, dans la tranquillité, juste de pouvoir discuter, bon, prier, lire la Bible, certes, et bien d'autres choses, ça n'a pas d'activité. C'est incroyable, la force de l'unité, notamment dans la famille. Vous avez compris, je pense, le sens de ce que je veux dire. Et puis, souligner ce matin aussi, le danger de manque d'unité, c'est donc les brèches que pourrait envoyer l'ennemi au travers des traits enflammés du malin. Et puis, l'unité, nous devons comprendre que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Ce n'est pas un homme, quel que ce soit, qui peut unir d'autres hommes ensemble. Nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pour ça que Paul dit en Colossiens, chapitre 1, verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Dieu a fait un miracle. C'est qu'il a permis que des juifs et des païens, que le juif et le païen soient unis ensemble. Ils se détestaient. Les juifs regardaient les païens, ces goy, ces inconvertis, entre guillemets, et les païens regardaient les juifs, et disaient, oh, ces gens religieux, regardez comment ils vivent. Il y avait une haine ensemble. Alors, certainement liée au péché, à l'orgueil, à beaucoup de choses. Mais ils ne pouvaient pas s'entendre. Leur chemin était différent. Leurs issues étaient différentes, leur destinée différente. Et chacun tenait son côté. Et Dieu a permis une chose extraordinaire, c'est qu'il a uni le juif et le païen. La Bible dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni scythe. Dieu a uni ensemble les hommes et les femmes de la surface de la terre par le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne peut pas y avoir d'unité sans que Dieu l'accomplisse, basé sur le sang de la croix. Reconnaissons, je ne sais pas vous, où vous en êtes ce matin, mais je reconnais dans ma vie que le plus grand obstacle, c'est le péché. J'ai beau essayer de tourner en rond, d'essayer de faire mille et une choses, de penser à, mais c'est vraiment le péché. Jérémie disait que chacun se plaint de ses propres péchés. Et dans le manque d'unité, reconnaissons que ce soit au sein du couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église, reconnaissons que nous n'avons pas pris le temps de confesser nos péchés. Et pourtant, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns et les autres et vous serez guéris. Si donc tu confesses ton péché, tu seras pardonné par le sang de l'agneau. Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 16 nous dit, mais maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui d'aider n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. De créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Vous manquez d'amour envers un frère et une sœur, je vous comprends. Vous n'avez pas tête d'amour pour un frère et une sœur, allez à Christ. Confessez votre manque d'amour, confessez votre manque d'attention, d'écoute, de compassion, d'affection peut-être, et Dieu va vous le donner. Dieu a un cœur large, infini. Vous pouvez manquer d'amour envers un frère et une sœur pour lequel Christ est mort. Allez à Christ. Comme son cœur est immensément large, alors il va vous donner la grâce de l'aimer, peut-être lui pardonner. Il va vous donner la grâce de l'aimer comme lui, il l'aime. Le programme de Dieu, les yeux de Dieu regardent avec l'amour de Christ. Prenons soin de nous regarder les uns les autres avec les yeux de l'amour de Christ. C'est l'œuvre de Dieu. Et j'ai marqué ceci, c'est que là où le diable a déchiré, Dieu est prêt à panser. Là où le diable a blessé, Dieu est prêt à guérir. Là où le diable a divisé, Dieu est prêt à unir. Et je pense que un des meilleurs témoignages de l'Église, c'est de vivre ainsi dans la réconciliation, la paix et le pardon les uns envers les autres. J'aimerais qu'on retourne dans le texte où il est écrit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le mot conserver ici, c'est observer, garder, préserver, réserver, pratiquer, se maintenir. Autrement dit, il y a ici un effort à faire. C'est qu'il semble que l'unité pourrait devenir fragile par tel ou tel aspect. Peut-être une incompréhension, des caractères différents, des perceptions différentes. Alors, le croyant doit être sensible à vouloir conserver. Parce qu'il y a des choses qui nous unissent. Et pour les conserver, il faut les préserver, il faut les pratiquer. Une chose, par exemple, qu'il faut toujours conserver, bien sûr par la paix, c'est l'amour. Le jour où vous perdez l'amour envers un frère et une sœur, vous êtes en danger. En danger de ne pas être dans le plan de Dieu. Si tu dis que tu haïs ton frère et que tu aimes Dieu, j'en dis, tu es un menteur. Autrement dit, quand il y a l'amertume, voire la haine, ou la méchanceté, ou la jalousie, ou la vengeance dans le cœur du croyant, c'est qu'il a oublié de garder la paix en Christ pour conserver cette unité qui vient de Dieu. Alors, on ne peut pas toujours être en paix avec tout le monde. La Bible dit, soyez en paix dans la mesure du possible, c'est vrai. Mais dans le cœur, il doit garder cet esprit de douceur, d'humilité, qui fait qu'il y a toujours la disponibilité du cœur vers l'unité. Et vous efforçant de conserver l'unité. Ici, c'est comme dans le grec d'ailleurs, le mot est au temps présent impératif. Il y a l'idée d'une continuité, c'est pas vous vous efforcerez ou quand ça vous dira, eh bien essayez d'être unis avec vos frères et sœurs. Quand le sentiment passera sur vos âmes, allez soyez unis, aimez-vous quand même un petit peu. C'est pas du tout ce que ça dit. Ça dit vous efforçant dans le temps d'une continuité présente, permanente. Ce n'est pas donc facultatif. Je ne décide pas si je dois m'efforcer ou non de garder l'unité. C'est Dieu qui dit que dans la marche, je dois rester uni avec mes frères et mes sœurs. Et c'est vrai que parfois le danger, c'est quand dans l'Église, il y en a ceux qui courent trop vite. Ça nous arrive. Ou qui courent ou marchent trop lentement. Donc la Bible dit « marcher de même pas ». L'unité de l'esprit, ça c'est intéressant et j'aimerais qu'on puisse arrêter ici un petit instant. Comment est-ce que Dieu nous a unis? Eh bien, on trouve ça en 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est parfois mal compris ce verset. Ici, dans le temps grec, il y a l'idée d'une action passée qui a des conséquences dans le présent. Mais une action passée qui est ponctuel et une fois pour toutes. Lorsqu'on vous dit, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Si vous êtes né de nouveau, vous pouvez dire, oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit pour former un seul corps. La preuve, je fais partie de l'Église, je suis un enfant de Dieu. Mais si quelqu'un vient vous dire, vous devez être baptisé, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il se contredit. Enfin, il contredit surtout la parole. Parce que vous avez été baptisé d'un seul esprit. Et si vous faites partie de l'Église de Christ, vous n'avez pas besoin de recevoir un autre baptême. Par contre, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de goûter à la plénitude du Saint-Esprit, d'être loin du Saint-Esprit, de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de ne pas résister au Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, mais pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont dans des expériences, qui veulent absolument expérimenter, avoir, parce qu'ils pensent qu'il faut une autre expérience dans la vie chrétienne. Mais la première expérience, je crois le dire par la grâce de Dieu, qu'il faut avoir dans la vie chrétienne, c'est le brisement. C'est d'être dépendant de Christ. C'est de renoncer à soi-même, de mourir à soi, de laisser Christ vivre. Et là, le Christ s'épanouit en nous. Il n'y a aucun problème. Les canaux sont purifiés, sont libérés, et l'Esprit de Dieu coule. Mais quand les canaux sont obstrués, alors ce n'est pas une expérience particulière d'un coup de baguette magique, c'est une fausse illusion, c'est une illusion, une tromperie, parce que la marche avec Dieu, c'est une obéissance de tous les jours, et Dieu n'enlève pas son désir de nous remplir de tous ses bienfaits, de toutes ses bontés et de toute sa plénitude. mais il nous a déjà baptisés. Alors, l'appel du Seigneur ici, par rapport au baptême du Saint-Esprit, eh bien, c'est de vivre par l'Esprit maintenant. Puisque vous en avez été baptisés, soyez remplis du Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et puis, par l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix, gardez l'unité, parce que c'est à quoi Dieu vous appelle. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas marcher dans l'Église. Il ne peut pas résister à la vie d'Église. Il ne reste pas dans l'Église, parce que l'Église est faite d'enfants de Dieu qui aiment le Seigneur. Et pour cela, c'est l'Esprit qui le dirige, le croyant. Alors, j'aimerais dire trois choses avant de terminer. La première, c'est que Dieu nous appelle à être unis à l'exemple de Dieu le Père et Dieu le Fils. Si vous tournez dans vos Bibles, tournez dans vos Bibles ce matin, en Jean chapitre 17, et notamment au verset 20, Jean 17, verset 20, et on va se poser la question, est-ce que la prière de Jésus-Christ a-t-elle été exaucée? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. J'aimerais vous raconter une petite anecdote, ça me vient à l'esprit. J'étais dans le train, à Paris, dans le métro exactement, et je voyais un monsieur en face de moi. On s'est souri, c'est bizarre, on ne se connaissait pas. Puis, on se sentait bien, tiens. Puis, il ne parlait pas du tout le français. Puis, je ne parlais pas sa langue, je pense qu'il venait d'un pays de l'Est. J'étais incapable de savoir d'où il venait, quelle langue il parlait. Mais je me suis senti poussé, j'ai sorti ma Bible. J'ai montré ma Bible. Oh, large sourire comme ça. Il sort de son sac sa Bible. On était deux croyants. Alors des fois, quand on a le poisson derrière la voiture, on klaxonne, tiens, voilà un autre, coucou. Bon, j'espère qu'il est un vrai chrétien, mais bon, c'est peut-être une façon. Le poisson identifie, hein. Enfin, à l'époque de l'Église primitive, ça voulait dire Jésus-Christ, fils de Dieu, hein, sauveur, ictus, en latin, qui est un nom de poisson, qui est le diminutif des premières lettres des mots grecs, Jésus-Christ, Dieu, fils sauveur. Mais ce n'est pas simplement la parole, il y a un esprit qui nous unit, c'est incroyable. Dans quelques voyages que j'ai pu accomplir ici et là, dans différents pays, des gens complètement différents, une culture complètement différente, on se regarde, tu es mon frère, tu es ma sœur, on fait partie d'une même famille. Ah, sans se connaître, tiens, ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble, on dirait que ça fait déjà des années qu'on se connaît. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Vous entrez dans une église, le Seigneur vous accueille au travers des frères et sœurs, vous sentez bien, il y a l'amour de Christ, tiens, c'est une famille ici, mais c'est ce que je ressens aussi. Je suis bien ici, bon, ben, je vais rester. Je vais être là, je vais faire partie de la famille de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est comme un tison dans le feu. Il brûle, on le sort du feu, ben, il noircit, il est pour rien. Un chrétien a besoin d'être placé dans les charbons ardents, figuratifs, les charbons ardents du feu de Dieu, dans le sens de la bénédiction, pas du jugement. Hein. Je veux bien me faire comprendre ce matin. Et ça fait partie de notre désir. On a les fibres intimes de notre cœur qui vibrent lorsque on rencontre d'autres frères et sœurs, d'autres dénominations. Alors, ça évite, par exemple, l'esprit sectaire. Hein. Je me souviens, moi, d'un pasteur d'une église, je ne voudrais pas laquelle, hein. Je ne veux pas que vous y allez d'ailleurs, qui m'a dit un jour, écoute, moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule église à Québec qui marche dans la doctrine de Dieu. Ah, je dis, ah bon, je voulais savoir laquelle. Et puis, il me regarde, il me dit, c'est la mienne. Ah. Et je me suis dit, ben, surtout, j'irai pas là. Voyez-vous, ouais, mais ça fait sourire, mais parfois, les chrétiens tombent dans des extrêmes du mysticisme, du légalisme, du sectarisme. Ce qui nous unit, c'est la main franche du Christ dans nos vies. Et c'est ça qui doit nous unir. Ne pas se juger les uns les autres, ne pas médire les uns des autres, ne pas calomnier les uns des autres. C'est le péché qui nous divise. Mais lorsqu'on laisse Christ vivre, et si on est un enfant de Dieu, alors l'Esprit de Dieu agit et nous unit dans un même esprit et on a la joie d'être ensemble. Une façon que j'aimerais ajouter ce matin de vivre l'unité, c'est de supporter les faibles. Chacun de nous, nous bronchons de plusieurs manières, dit Paul. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire, écoutez, moi, je suis le plus fort, ça y est, je suis de béton, le diable ne peut plus m'attaquer, je ne tombe plus dans le péché, ça y est, je suis tombé à la sanctification parfaite et totale. Il y a des gens qui pensent ça, mais ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment vous vivez la vie chrétienne, mais je pense qu'en regardant nos vies, les uns les autres, on peut dire que vraiment, on a besoin de se fortifier. Mais il n'empêche pas moins que dans le Seigneur, il y a des forts, il y a des faibles. Parfois dans certains domaines, parfois dans plusieurs domaines. Et Paul dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc, pas de place pour l'orgueil spirituel. Comme a dit quelqu'un, le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien vu de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, c'est ça l'unité, par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance, et que le Dieu, la persévérance et la consolation vous donnent d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu ne veut pas laisser, même pour ceux qui sont plus forts, la place à l'orgueil ou à écraser les autres, mais au contraire à considérer les besoins des autres, à se faire tout à tous pour garder l'unité. Un deuxième aspect que j'aimerais mentionner pour garder l'unité, c'est d'éviter les disputes et les clans. Ce n'est pas moi qui le dis, heureusement, hein, c'est la parole. En 1 Corinthiens 1, verset 10, je vous le lis, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Vous avez un différend avec un frère, une sœur? Attendez, je vous regarde là. Oui, ça vous arrive? Peut-être plus proche que ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, là, je boude. Moi, je les appelle, ces gens-là, les bouddhistes. Ou je rumine, bon, etc. Est-ce que vous allez voir le frère et la sœur pour expliquer ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez le courage de parler selon la vérité à votre prochain? Votre prochain, c'est votre frère. S'il y a une incompréhension, vous avez le droit de partager votre cœur et de dire ce que vous pensez. Vous avez le droit de dire la vérité à votre frère ou sœur. Lorsque tu as dit cela, voilà ce que j'ai ressenti. Lorsque tu as fait cela, voilà ce que j'ai ressenti. Sans un doigt d'accusateur, juste pour exposer ce qu'on ressent, ce que l'on pense, qu'on ait le droit à l'écoute de l'autre. Peut-être s'est-il mal exprimé, peut-être on a mal compris. Mais garder l'unité, c'est essayer d'être d'un même cœur, d'une même pensée. Paul disait ceci, et c'est, je pense, une belle leçon pour nous dans l'Église, toujours. « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous en même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » À être parfaitement unis. Pas de place pour « Oh, ben, ouais, là, je tolère, mais jusqu'à quand ?» Non, 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 ça doit être réglé. Si vous ne mettez pas en règle votre vie avec les autres, vous accumulez des barrières avec les autres. Vous accumulez, comme a dit quelqu'un, un monsieur qui fait la relation d'aide dans le couple, des valises sur votre lit conjugal, qui vous sépare de votre mari et de votre femme. C'est une illustration. Attention aux petites barrières qui deviennent des murs, et finalement, qui deviennent des murs très épais, qui montent, et qui deviennent des murs de séparation. Nous devons veiller à ne pas voir cela. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. Tiens, pourtant, les Corinthiens, ils avaient tous les dons. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie? J'ai appris votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Alors, non seulement il y avait des disputes, et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Des clans. Moi, je suis de Paul. Waouh! Moi, d'Apollos. Et attendez, moi, je suis de Céphas, Pierre, l'apôtre. Et moi, ah, c'était le plus beau clan dans l'Église. Je suis de Christ. Hein? Quand l'Église se nomme, l'Église de Christ, ça veut tout dire. C'est l'Église. Point. Il n'y en a pas d'autre. Non? Attention. Attention. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le danger qui crée la division, c'est quand nos yeux regarde aux hommes et non plus à Christ. Quand nous mettons des hommes et des femmes sur un piédestal sans regarder à Jésus-Christ, nous sommes en danger parce que nous regardons aux hommes, nous ne regardons plus au Christ. C'est le Christ qui nous unit et c'est le Christ qui nous remplit. Ce n'est pas une œuvre humaine. L'unité vient de l'œuvre de Dieu. D'où est-ce qu'elle vient la division? On va terminer avec ça. Pour moi, frère, toujours les Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voyez-vous, l'esprit de dispute, l'esprit de clan, d'où ça vient? Manque de maturité et vie par la chair chez le croyant. Dans la Bible, il y a trois sortes d'hommes. L'homme naturel qui est privé de Dieu, l'homme spirituel qui est rempli du Saint-Esprit, le chrétien charnel, l'homme charnel qui connaît le Seigneur, mais qui vit par sa chair. Je vous ai donné non de la nourriture solide, du lait, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc dans nos vies, c'est ici le diagnostic de Dieu lui-même, lorsqu'il y a de la jalousie, un esprit de dispute, une irritation, une colère, un manque d'amour, c'est parce que nous sommes en train de réagir avec notre ego, notre chair. Nous avons besoin d'aller vers Christ et puis de lui donner, de lui demander de nous remplir de son esprit. Et s'il y a des choses à régler, alors il faut le faire afin de ne pas vivre dans la division. Paul disait en fait aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Paul disait ici aux Éphésiens, marchez d'une façon digne. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il y a des croyants qui se divisent. Alors, vous avez peut-être entendu cette anecdote parce que l'un voulait le tapis rouge, le tapis vert, le tapis bleu. Est-ce que ça peut vraiment être un sujet dans une église de division? Quand dans un couple, il arrive que des détails deviennent des montagnes, dans les familles, et dans l'Église, nos yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, Dieu veut qu'on soit parfaitement unis et qu'on devienne ferme, qu'on reste ferme par le lien de la paix. C'est pour ça qu'en Philippiens, Paul ajoute « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Par-dessus toutes ces choses, en Colossiens, revêtez-vous de la charité, qu'est le lien de la perfection. » Lorsque l'équation de l'unité des Philippiens, c'est l'humilité plus l'amour plus la vérité. Humilité plus amour plus vérité. La paix d'être sauvé, la paix de Dieu qui nous empêche de nous inquiéter, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, en conclusion, j'aimerais dire ceci. En fait, les chrétiens n'ont pas à créer l'unité entre eux. Je répète, les chrétiens n'ont pas à créer l'unité entre eux, mais à conserver ce que Dieu a fait en créant un seul homme nouveau. Car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ainsi, les chrétiens doivent conserver cette unité par le lien de la paix. Et les chrétiens, soucieux de maintenir la paix entre eux, se toléreront les uns vers les autres, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. C'est ça, vivre par le lien de la paix. On ne peut pas être d'accord en tout. D'ailleurs, c'est bien que tout le monde ne s'habille pas de la même façon le dimanche matin. Homme et femme, on n'est pas moulé pour être exactement identique, mais on est voué à être rempli du Seigneur, pour être un oasis d'amour, de bénédiction envers l'autre. Et quand cette fontaine d'amour existe, où chacun se déverse, ou déverse l'amour de Christ sur l'autre, il y a une unité, il y a un rouage, une onction qui fait qu'il est bon dans l'Église d'être ensemble et de marcher de façon digne, en toute humilité, douceur, patience, amour et paix. Amen. Prions, s'il vous plaît. Ô notre Père céleste, nous venons à toi simplement, nous avons tellement besoin d'apprendre à vivre de l'unité en toi et garde nos cœurs, nos pensées de manière à vraiment être attentifs les uns envers les autres, au nom de Jésus. Amen.